Bah, l'essentiel a été dit. On ne s'est pas vraiment concerté avec Jean-Guy sur le thème, mais là, je sais pas, non, c'est pas exactement la bonté et la fidélité qui sont mon message, mais c'est quand même très, très, très proche. Mais avant de commencer, je me suis dit, tiens, il y aura peut-être des jeunes enfants. Or, il y a des enfants un peu moins jeunes aujourd'hui parmi nous. Voilà, des grands enfants, on va dire, ou des enfants grands, des enfants de Dieu. Et je vais quand même lire une histoire que j'avais prévu de leur lire s'ils avaient été là. Mais je pense qu'elle peut quand même apporter quelque chose. Donc, convoquons l'enfant qui est en nous et écoutons une lecture à deux voix qui introduira la prédication.
Un jour, les belles choses de l'univers tinrent conseil. Le soleil disait « Je suis beau, rayonnant d'une grande splendeur. Mais Dieu est mille fois plus splendide que moi. Qui le lui dira avec des mots ?»
Les étoiles disaient « Nous brillons de toutes nos forces. Et de nuit, le ciel est un véritable feu d'artifice. Mais Dieu est mille fois plus lumineux que nous. Qui trouvera des mots pour chanter sa lumière ?»
Les fleurs disaient « Nous sommes des milliers, de toute espèce, parfumés de bonnes odeurs, parés de belles couleurs. Nous sommes des miettes de la beauté de Dieu. Qui fera pour nous un bouquet de mots pour chanter notre merci à Dieu ?»
Passa par là un petit garçon, tout petit devant le soleil, les étoiles, les montagnes, heureux d'admirer les fleurs, heureux de s'amuser avec l'eau, heureux d'aimer les animaux. Et ce petit garçon s'est mis à jouer avec les mots pour chanter à Dieu un immense merci pour tout l'univers.
Ensemble, on lira le psaume 148 pour ceux qui veulent suivre. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Oui. Louez-le tous, astres lumineux, étoiles lumineuses. Louez-le, ô cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'eau, là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel. Car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis, tous établis pour toujours. Il leur a fixé des lois qui ne changeront jamais.
Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous, monstres marins, et vous tous, abîmes, éclairs, grêle, neige, brume, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, tout ce qui rampe ou qui vole, rois du monde et tous les peuples, chefs et princes de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, louez l'Éternel. Car en lui, tout est admirable, et sa majesté domine la terre et le ciel. Il a préparé un libérateur pour son peuple. C'est un sujet de fierté pour tous ses fidèles, pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui. Louez l'Éternel.
C'est ce qu'on a commencé à faire ce matin. Alors le message de ce matin, il sera peut-être un peu plus long que d'habitude, que d'ordinaire, Je le ferai en 5 parties. Donc, il a été lu louange dans le ciel, louange en bas sur la terre, selon la structure de ce psaume qu'on regardera. Une actualisation, puisque c'est en lien avec le thème de la création, qui est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la création. Un temps de questions-réponses autour de ce thème-là, et puis une lecture d'une prière pour terminer. Alors, première partie, invitation à la louange en haut dans le ciel. Alors, on voit bien que la louange, l'invitation à la louange occupe beaucoup de place dans la Bible en général, mais dans ce psaume, ce qui est particulier, je ne sais pas si ça vous a frappé, l'invitation à la louange tout court occupe beaucoup plus de place que les motifs de la louange. On ne nous dit pas tant que ça pourquoi il faudrait louer. En tout cas, ange, soleil et lune, étoile, éléments célestes, cieux des cieux, la louange commence dans les hauteurs. Alors, avant d'afficher ça, c'est un peu trop tôt. C'est pas grave. Les anges. On va nous commencer par les anges. Hein. Alors, la première louange est céleste, là-haut. Hein, ce sont les anges, nous a-t-il dit, les premiers nommés qui louent le Seigneur. Des anges, des troupes angéliques, des armées célestes, soumises à Dieu, appelées à le louer. C'est pas aisément représentable, on n'en voit pas tous les jours. En tout cas, justement, comme on ne voit pas ça tous les jours, moi j'ai jamais vu ça, je suppose que vous non plus, le sujet angélique a toujours été un objet de curiosité. Et actuellement, le sujet devient de plus en plus un objet de littérature à la taille de plus en plus impressionnante. Hein, comme vous allez voir, vous tapez sur Internet, vous allez faire un tour chez votre libraire à Cultura à Bourgoin, par exemple. La liste est longue, les volumes emplissent ces rayons de librairie sur la Bible des anges, le livre des anges, etc. Je passe les titres, c'est pas le plus intéressant, mais en tout cas, ces ouvrages vous promettront, je dis avec un peu de recul, beaucoup de recul, une révélation, une guidance, une guérison et autres. En tout cas, presque tous, une conscience, un éveil à la conscience et une réalisation de vous-même. Bref, ils vous garantiront, et je mets plein de guillemets, des clés et un accès au développement personnel, le plus souvent hors de toute attache biblique, bien entendu, bien qu'affirmant parfois s'inspirer de traditions hébraïques. Hein, donc c'est un petit peu un grand patchwork de spiritualité, on va dire patchwork, et voilà. Donc, je ne vous recommanderai pas ces lectures. En tout cas, quel contraste avec l'image renvoyée par le psaume 148. On peut peut-être passer à la diapo suivante, on y viendra après. On reviendra aux étoiles et aux astres juste après. En tout cas, les anges apparaissent comme des messagers de Dieu. Ils l'adorent, ils lui sont soumis en tant qu'esprit. Dans certaines versions, c'est marqué esprit. Esprit à son service. En gros, la définition de l'ange, c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, qui nous la donne le plus clairement. Les anges sont des simples serviteurs envoyés par Dieu pour aider ceux qui doivent recevoir le salut, c'est-à-dire tout ce que Dieu a appelé. Pour le reste, c'est sobre. Le reste de la révélation biblique est sobre et cela ne satisfera pas sur les anges notre soif plus ou moins saine, hein, faut reconnaître, de curiosité, d'extraordinaire ou de simple précision. Donc, sobriété de récit biblique. Finalement, ce qui est frappant, c'est que autant ils sont discrets ici-bas, autant ils sont éclatants en primauté, hein, c'est eux les premiers qui louent le Dieu, qui sont nommés en tout cas dans ce psaume, au ciel, pour célébrer le Seigneur à sa seule gloire et non la nôtre. Et puis donc on revient, on passe à la diapo suivante, sur laquelle on voit « Acclamez-le, soleil et lune, acclamez-le toutes étoiles scintillantes, barrées par leur brillant éclat, leur éloignement, il nous fascine et nous rappelle à une faible échelle la lumière du Seigneur mille fois plus lumineuse, comme il nous a été dit par Catherine et Raphaël tout à l'heure, que tout éclat terrestre ou céleste. Les cieux des cieux, les eaux de pluie, alors là, les cieux des cieux l'acclament. Alors les cieux des cieux, c'est un peu c'est un hébraïsme, hein, c'est tiré de la Bible, c'est une façon de parler des Hébreux qui a des parallèles dans la Bible, hein, quand on veut renforcer, de jouer un rôle de superlatif, par exemple le roi des rois, le saint des saints, ça désigne des cieux élevés, des espaces reculés du ciel, Et puis les eaux au-dessus des cieux, on en a un petit rappel littéralement, les eaux d'au-dessus le ciel, et font probablement allusion aux eaux du dessus du premier chapitre de la Genèse. Alors conclusion, pourquoi Dieu est-il loué ? Tout simplement à cause de sa parole créatrice. D'un mot, tout vient à l'existence, rien n'est externe à celle-ci. Si vous connaissiez quelque chose qui soit externe à la création et qui ne soit pas créé par Dieu, ça s'appelle une idole, tout simplement. Tout ce qui serait, tout ce qu'on mettrait en, qui n'apparaîtrait pas comme étant créé par Dieu, c'est d'abord ça n'existe pas, et ce serait une idolâtrie, une idole. Deuxième raison, eh bien, pourquoi là-haut Dieu est loué ? Ben, de par sa parole éternelle, immuable, hein, les astres nous paraissent immuables, même si tout passera. Non, il n'a pas tourné le dos à sa création, il n'est pas dépassé par la roue dont il a lancé le mouvement. Deuxième partie, invitation à la louange ici-bas, versets 7 à 12. Après le ciel, la terre. Après le haut, le bas. Le texte est ainsi découpé pour nous faire redescendre, on voit le mouvement. Très bas jusque dans le fond des mers. D'ailleurs, le mouvement de cette dernière partie, de cette deuxième partie, va du... On peut peut-être repasser, Raphaël, tu peux peut-être revenir au tout début du verset, l'affichage du verset 7 à 12, on verra peut-être mieux, peut-être revenir. Voilà, on peut peut-être revenir, ça prend un instant, mais ça vaut peut-être le coup de le repasser. Voilà. Le mouvement de la deuxième partie à partir du verset 7, c'est intéressant parce qu'on voit bien que ça va du monstrueux, les monstres marins, et terrifiants, abyssal, les abîmes de profondeur, à l'impressionnant, le vent impétueux, le vent de tempête, et puis au simplement monumental, c'est déjà pas mal, les montagnes, les collines, les grands arbres, les cèdres. Puis le texte s'incline vers les créatures les plus modestes, plantes, animaux, êtres humains. C'est tout un mouvement descendant. Je vais passer vers, revenir vers justement les plus impressionnantes de ces créatures, sur le plan terrestre. Alors les monstres marins et les abîmes. Alors quand on voit les monstres marins, on voit l'idée du Léviathan. Hein, les monstres marins dans le texte hébreu, c'est le Léviathan, un monstre un peu mythologique, légendaire de l'époque, une sorte de serpent, de crocodile, on ne sait pas trop. Bref, un peu maléfique et surpuissant. Mais même ces êtres les plus terrifiants, tu peux revenir en arrière, les plus terrifiants, les plus mystérieux pour l'homme, sont exhortés à la louange du Créateur. Et puis vous avez sur l'image qui est à votre droite, et à la mienne, le pont de l'abîme en Haute-Savoie, où parfois nous allons, c'est bien un gouffre, un abîme est un gouffre, on ne le voit peut-être pas très bien représenté sur ce pont, mais effectivement un grand gouffre, alors ça peut, un abîme, ça peut être des abîmes, ça peut être un gouffre maritime, ou marin, ou terrestre, c'est des lignes en tout cas des profondeurs. Et là encore, longtemps inaccessible. Hein, la vraie conquête de l'espace aussi est un abîme, un gouffre céleste, et puis sous-marin, abyssal aussi. Là, en tout cas, si l'auteur le fait apparaître, à mon avis, c'est pour nous faire comprendre que l'inconnu ou l'inaccessible, le monstrueux ou le terrifiant, lui aussi loue Dieu implicitement, puisqu'il n'y a pas de mot pour cela. Peut-être étrange, mais c'est ainsi. On passe à la diapo suivante pour voir des éléments météorologiques qui aussi louent le Seigneur, l'acclament, les éclairs, qui n'a pas été terrifié par des grondements d'éclairs. Une grêle terrible est tombée pendant que j'étais au congrès CAEF à Nantes et a abîmé toute la ville de Vichy. Hein. Les voitures étaient toutes poquées. C'était gros comme une bonne grosse... un petit cochon, un bon gros cochon, c'est plutôt presque une mise dans une toute petite orange, grosse comme ça à peu près, oui, presque comme un petit point. Et donc, ce qui m'a frappé aussi à travers ces éléments, tu peux passer l'image suivante, c'est que les vents impétueux exécutent ses ordres. Un peu d'humour, évidemment, c'est à l'extrême. Alors, il y a un petit jeu de mots sur le jeu vent, sur le mot vent. Alors, les vents parfois désignent dans les traductions du Nouveau Testament les messagers, hein, les anges aussi, qui exécutent ces ordres. Au sens littéral, c'est le vent qui souffle, tout simplement. En tout cas, ce qui est le message qui passe, c'est que même les éléments les plus insaisissables, même les plus impressionnants qu'on vient de voir, constituent entre les mains de l'Éternel d'obéissants serviteurs. En fait, rien n'est trop grand entre ses mains et rien n'échappe à son contrôle. Ça doit nous rassurer, même si ça peut, on peut avoir l'impression, comme ce jeune homme, de se faire emporter parfois. Voilà, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres exécutent sa volonté. Là, on retombe sur les éléments plus connus, plus proches de nous encore, peut-être davantage quotidiens. Animaux sauvages, tout le bétail, tout ce qui rampe, tout ce qui vole, acclame l'Éternel. Les rois de la terre, les rois et tous les peuples, les chefs et princes de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, tous ensemble, louez l'Éternel. Alors, on ne sait pas, le texte fonctionne par couple, hein. Deux séries à chaque fois, rois et peuple, princes et dirigeants, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Que tout ce qui respire, c'est le psaume 150, loue l'Éternel. Conclusion des parties 1 et 2, comme nous l'avons vu, le concert de louange à l'Éternel est universel. C'est un mouvement descendant, il est angélique et stellaire. Il est céleste et marin, abyssal. Il est météorologique, végétal, animal, humain, composant une immense symphonie à la gloire du Créateur, une ode à son infinie sagesse, à sa divine providence. Sa force immédiate, dans le sens littéral du terme, ça veut dire sans autre moyen que sa parole. Ça maintient l'univers qui tire son origine de lui et qui est sa cohésion de notre Seigneur. De la même façon, nous dit le verset 14, le peuple de Dieu tire sa cohésion et son identité dans l'alliance et la proximité du Seigneur. Et c'est frappant de voir que tous ces éléments qui nous paraissent si lointains nous disent non, le Seigneur est proche. Il a rendu force et fierté à son peuple, nous dit le texte final. C'est un titre de gloire pour ses fidèles, pour les membres d'Israël, pour son peuple qui lui est proche, pour aujourd'hui l'Église. Alors, troisième partie, quelle responsabilité de l'homme vis-à-vis de la création ? Est-ce que c'est une coopération chorale, harmonieuse, ou une domination brutale ? J'ai ouvert la question. Alors il se peut que les écologistes, les poètes, les simples amoureux de la nature, parmi nous, aient vibré à ce texte. En tout cas, ça a été le cas pour moi. En tout cas, ce texte aussi peut remettre en question et interroger le rapport, notre rapport à la création, le rapport à la création de l'homme, un rapport, j'hésitais à dire, gaspilleur, peut-être, dominateur, souvent, brutal, parfois, et heureusement, bien souvent, dans l'admiration de notre création. En tout cas, le gaspillage des ressources de la création commence là où on ne reconnaît plus, finalement plus aucune instance supérieure, là où l'homme ne reconnaît plus une autorité au-dessus de lui, et où on ne voit plus que lui-même, où nous ne nous voyons plus que nous-mêmes. Et Jacques Chirac disait déjà il y a 20 ans, des conséquences, il y a 20 ans, il disait déjà, notre maison brûle, en parlant de la planète Terre, et nous regardons ailleurs. Effectivement, les activités humaines ont la capacité de provoquer, on le voit bien, on commence à s'en rendre compte de manière sensible, des modifications importantes de l'environnement terrestre, notamment, par exemple, les fonds marins, une perte de biodiversité, la perte des habitats, l'ours blanc est devenu un symbole, ou bien alors les herbiers sous-marins qui habitent une faune et une population extraordinaire mais qui se réduit comme peau de chagrin. L'empreinte de l'homme est devenue globale, que ce soit par la destruction, la réduction, l'augmentation plus exactement de l'empreinte écologique, à cause de l'urbanisation rampante, sur l'image de votre droite, la déforestation brutale, la surpêche, l'exploitation maximale de tous les océans, ou bien l'apparition d'espèces invasives. Là, j'ai pris une des plus connues chez nous, la renouée du Japon, qu'on trouve de partout, le long des berges ou même en forêt, dans tous les milieux humides du Nord-Isère. Bien sûr, je pourrais énumérer longuement d'autres, et puis vous pouvez en citer énormément. La pollution générale, que ce soit à travers l'érosion des sols, la pollution, différentes sortes de pollution, comme la pollution, bien sûr, microplastique et plastique, ou encore la pollution de l'air, là aussi au-dessus de la ville de Paris, où, bien sûr, les marées noires les plus spectaculaires, mais s'il n'y avait que les marées noires, ce serait déjà terrible, mais ça ne s'élimine pas à cela. Bref, la liste est longue. Attends, avant de passer à ça, Raphaël, je veux juste dire un truc, avant de parler de triple mandat. L'idée que l'influence de l'homme sur le système terrestre serait devenue prédominante n'est pas nouvelle. C'est pas nouveau qu'on dit l'homme a déjà influencé tout autour de lui. Il y a plus de 200 ans, dès 1778, le naturaliste Buffon écrivait déjà, dans son ouvrage Les époques de la nature, la face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. Vous voyez que c'est pas nouveau. Cependant, aujourd'hui, ça atteint des amplitudes que vous voyez. Et ce psaume, le psaume 148, finalement m'a interpellé. Il nous appelle à reconsidérer ce rapport d'exploitation et de domination, et nous amène à réfléchir sur notre place de locataire et notre héritage d'un triple mandat que nous avons reçu de Dieu. Alors le premier mandat, on fait juste apparaître une, Raphaël, c'est le défenseur. Alors, c'est un peu le super-héros, alors je vais faire un défenseur plus modeste, mais je n'ai pas trouvé de défenseur plus illustré que cette image de Batman, mais on va dire un simple défenseur, hein. Restons modestes. Mandat de défenseur. Le Créateur ne nous abandonne pas. Jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour. Il ne se repent pas de nous avoir créés. Et l'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Qu'est-ce qui peut bien nous freiner? La négation du problème? Le déni? La résignation facile? La confiance aveugle dans la promesse technologique? Mais la maison commune est menacée. Deuxième mandat que je vois aussi dans les Écritures, le chef d'orchestre. Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Une symphonie pastorale que chantait déjà Beethoven, qu'orchestrait déjà Beethoven. Coordonner comme un chef d'orchestre, c'est par exemple nommer les choses. Aujourd'hui, cette mission de coordonner est confiée à l'homme, à travers la science par exemple, et ça renvoie au mandat initial reçu par Adam et Ève, qui voit arriver Adam en particulier, elle n'avait pas encore arrivé, Adam qui voit arriver dans le jardin un à un les animaux à lui, envoyés par Dieu, et qui les nomme tous, nommés, classés. Aujourd'hui, on parlerait de science collaborative. J'aurais pu vous l'afficher, mais j'ai sur mon smartphone l'application PlanNet. Vous photographiez, vous envoyez à un site et ça fait fonctionner la science, ça permet d'identifier la plante. Et vous pouvez aussi faire partager des résultats à d'autres réseaux de chercheurs et de collaborateurs, et ça fait avancer la connaissance. Donc une science collaborative, mais pas en solo. Parce que quand on commence à jouer tous, sa partition en solo, la cacophonie guette. Et par exemple, pour rester sur l'illustration des images du vivant, course au brevet, brevetabilité du vivant, organisme génétiquement modifié, et partition des recherches au nom du profit. La maison commune est divisée, pas forcément orchestrée. Dieu, au contraire, nous appelle à une symphonie du vivant. Troisième mandat, prendre soin de la maison commune, le jardinier. François d'Assise entrait en communication avec toute la création. Il prêchait même aux fleurs, dit-on. Il les invitait à louer le Seigneur comme s'ils étaient dotés de raison. Alors sa réaction était bien plus qu'une valorisation intellectuelle. ou qu'un calcul économique. Parce que pour lui, n'importe quelle créature était une sœur unie à lui par des liens d'affection. Voilà pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe. Peut-être penserez-vous, oh mais c'est du romantisme irrationnel. Le jardinier prend soin, mais là où le prédateur prend et se sert, exploite, là où le consommateur consomme, l'idée simplement, elle n'est pas si compliquée, quand on voit pousser quelques herbes sauvages, les laisser faire, parfois, c'est être sensible au fait de pouvoir les faire voir, les admirer et louer Dieu pour tant de beauté, parfois inattendue, bien sûr, il y a la renommée du Japon qui envahit tout, mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, dans mon jardin, j'ai pu photographier celle de gauche, celle du nonagre, celle de droite en haut, la rose, c'est l'œillet des chartreux, et puis celle en dessous, c'est du millepertuis, je l'ai trouvé dans mon jardin, elles sont arrivées comme ça, quelques graines. Donc chacune a des vertus médicinales et thérapeutiques. Bref, le monde est plus qu'un problème à résoudre. Il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. Tous les êtres vivants sont liés les uns aux autres. Dans pareil contexte, toute exploitation de la création par l'homme devient une distorsion. Au contraire, le psaume laisse entrevoir, pressentir l'amorce d'une grande fraternité universelle, où la voix humaine aide l'univers entier à accomplir son service de louange. On l'a fait par nos mots. Seul le petit garçon pouvait le faire. En tout cas, quel défi pour toute civilisation marquée en profondeur par la technologie et la soif effrénée de consommation. Nous entendons le triple soupir de Romains 8. Nous soupirons, après le renouvellement de toutes choses, l'Esprit Saint soupire, et la création entière soupire après la délivrance, la révélation des fils et filles de Dieu. Et soupire en travail d'enfantement, comme une délivrance, comme une femme attend la délivrance de l'enfant qu'elle porte. Alors que nous oublions nous-mêmes que nous ne sommes que poussière. Nous attendons et nous anticipons la réalisation de la prophétie du psaume 148:14, verset 14, en la personne de son Créateur et Libérateur, le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, j'avais quelques questions, on n'en posera qu'une à la fois. Je vais en faire apparaître juste la première. Je vous invite à réagir un petit peu, à interagir quelques instants. Que signifie pour moi, pour chacun d'entre nous, et vis-à-vis de la création, de recevoir un mandat, alors peut-être que l'image vous parlera plus qu'une autre, de défenseur, de chef d'orchestre, de jardinier. Et là, je ferai écho à ce que vous me direz. Je voudrais simplement... pas forcément de rebondir sur ce qu'aura dit l'autre, mais dire personnellement pour vous ce que ça évoque, tout simplement. Quelques réactions. Donc les trois images se confondent. Donc une image fondue en trois images fondues en une seule. Autre réaction ? Ce ne sont que des images, il ne faut pas s'enfermer forcément, mais c'est une façon d'exprimer et de lancer aussi le fonctionnement, mais tout à fait. Autre réaction éventuellement ? J'ai un rôle à jouer. Monique, une question. Que faire des frelons, que faire des indésirables? On a vu la rue du Japon, il y a aussi le frelon. pour rebondir sur ce qui a été annoncé par Pascal, Monique rebondit. Et oui, donc défenseur, chef d'orchestre, jardinier. On a parfois des hôtes du jardin qui sont là. Autre réaction ? Voilà, donc effectivement, les moustiques qui prennent de plus en plus de place chaque année, qui sont des conséquences aussi du changement climatique de plus en plus ces dernières années en tout cas, même s'ils ont toujours existé. Oui ? Attention à la gestion de l'eau aussi, oui. Donc là, ce serait le rôle soit du défenseur, soit du chef d'orchestre, mais le jardinier, je sais ce que c'est aussi, forcément. Oui, à Denis ? L'idée de la responsabilité de manière générale, voilà, ça fait écho à ce que vous avez dit dimanche dernier, on n'est pas, la planète n'est pas une poubelle, certes, le Seigneur revient, ok, mais on a une responsabilité personnelle. Je ne vais pas aller plus loin, parce que j'ai encore deux petites questions à vous poser. La deuxième question. Qu'est-ce qui freine l'effort de collaboration écologique à la sauvegarde de la maison commune, notre terre ? L'amour de l'argent, l'égoïsme, l'amour du pouvoir. Alors maintenant, ça c'était plus de manière générale, ça peut être en moi, ça peut être à l'extérieur. Maintenant, je vous repose la question, et en moi ? Oui, Naomi ? Le péché, oui. Oui. Donc il rejoint l'amour de l'argent, l'égoïsme ou la paresse, par exemple. Je rejoue de la paresse. J'ai une fois la flemme de me baisser pour ramasser un papier quand je vois devant moi. Ou une bouteille. Oui. Oui, l'impuissance, finalement. On est comme on peut rien faire. Il y a trop de choses à faire. Je ne peux rien faire. Je suis impuissant. L'impuissance. La force de l'habitude. Eh oui, j'ai toujours fait comme ça, pourquoi changer ? Comment changer ? Ok. Troisième question, c'est peut-être la question pour moi peut-être la plus sensible. Comment articuler si mandat de sauvegarde, hein, on l'a vu, défenseur, chef d'orchestre, jardinier, et évangélisation ? Y a-t-il un lien entre les deux ? C'est-à-dire sauvegarde, mandat d'évangéliser, et si oui, lequel ou lesquels ? Le respect. Le respect de la création. Autre idée. Oui, alors, Ruth. Oui. Donc d'action commune. Pour montrer notre intérêt commun à notre planète, à notre terre commune, à notre environnement commun. D'accord, ensemble, pour être comme témoignage, oui, en tant qu'Église. Est-ce que c'est au niveau de la sonorisation, tout le monde a pu entendre ? Est-ce qu'il faut que je reformule ? C'est bon ? Je ne vais pas aller plus loin. Simplement, dans cet échange, qu'on pourrait continuer, ou qu'on pourra reprendre une prochaine fois, sous d'autres formes ou autrement, mais je voulais terminer par une prière que nous lirons à deux voix, une prière chrétienne avec la création. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante et sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu es venu parmi nous, tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant, avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu.
Esprit Saint, qui, par ta lumière, oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs. Pour nous inciter au bien, loué sois-tu.
Ô Dieu, trois fois saint, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence. Aime le bien commun, promeuve les faibles et prenne soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen.
Amen.
Finissons notre culte. Merci Jean-Marc pour ce partage. Oui, vraiment, ayons pleine conscience que notre Dieu, avant d'être un Dieu sauveur, a été un Dieu de création.